Le billet d'humeur, quand l'information suscite la réflexion, avec le pasteur Gabriel Monet.
La Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours officiellement en guerre. Certes, cette guerre est plutôt froide, surtout remplie de menaces et de déclarations virulentes, mais elle n'en est pas moins réelle. Si les lancements de missiles nord-coréens, potentiellement nucléaires, sont pour l'instant plus symboliques que dangereux, la menace est inquiétante. C'est dans ce contexte de conflits et de tensions que vont bientôt s'ouvrir les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, à 80 km de la frontière entre les deux Corées. Or, de manière assez étonnante et réjouissante, la trêve olympique va permettre des signes de rapprochement. En effet, les deux Corées se sont entendues pour que les athlètes des deux entités défilent ensemble. Ainsi, 22 sportifs de Corée du Nord se joindront aux athlètes de Corée du Sud pour ne former qu'une seule délégation lors du défilé d'ouverture. Mais plus significatif encore que ce défilé symbolique, les deux Corées se sont accordées pour faire équipe commune dans le tournoi féminin de hockey sur glace. Ainsi, 14 joueuses nord-coréennes se joindront à l'équipe. Nul doute que jouer ensemble, devant tous les Coréens et aux yeux du monde entier, est un symbole mais aussi un acte significatif. Certes, ce n'est qu'un pas sur un chemin qui risque d'être très long, et le risque existe que ce ne soit qu'une parenthèse. En effet, les deux Corées ont déjà défilé ensemble lors des Jeux Olympiques en 2000 à Sydney, en 2004 à Athènes et en 2006 à Turin, sans que cela n'ait changé fondamentalement la donne. Toujours est-il que l'on ne peut que se réjouir quand un esprit de conciliation prend le pas sur un esprit de confrontation. Il est si difficile, lorsqu'un conflit émerge, d'oser faire le premier pas et d'accepter certains compromis. Que ce soit entre nations, entre groupes ou entre individus, souvent les positions restent figées. Chacun défend son bon droit sans envisager de concession. Or, dans toute situation d'opposition, il est nécessaire que les différentes parties fassent preuve d'une volonté conciliatrice pour trouver une solution. La loi du plus fort et de l'écrasement est rarement fructueuse. Dans cette dynamique, après la décision d'abandonner le projet de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, on peut se réjouir du choix du gouvernement français de ne pas déloger les zadistes illico presto et par la force. Certes, ces zadistes sont à bien des égards hors la loi, et il y aurait une certaine légitimité à les expulser. Certains pourraient même penser que, maintenant qu'ils ont eu gain de cause, il serait utile qu'ils soient remis à leur place pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore et faire penser que leur mode d'opération, par le blocage et la violence, peut donner des résultats. Pourtant, je ne considère pas comme un acte de faiblesse ce désir de médiation affiché par le gouvernement. Certes, pour trouver des solutions pacifiques et conciliatrices, il importe que les deux parties soient dans une dynamique constructive. Nous verrons bien les réelles motivations des uns et des autres. Espérons qu'un véritable dialogue, mais aussi des actes concrets, permettront de débloquer la situation. Ce travail de concertation devrait se nouer en particulier avec la partie des zadistes qui occupent illégalement des terres agricoles, qui les cultivent parfois depuis plusieurs années et qui veulent se mettre en conformité avec la loi. Il leur faudra notamment montrer leur bonne foi, en se mettant à régler les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, mais aussi en acceptant de s'acquitter d'un droit de fermage. Avec un peu de bonne volonté d'un côté, un peu de tolérance de l'autre, on peut espérer une solution satisfaisante pour tous. Seule cette dynamique du dialogue pourra ouvrir la voie à la conciliation. On utilise le verbe « s'entendre » pour évoquer le fait de trouver un accord. Ce n'est pas anodin. Toute conciliation passe par l'écoute mutuelle. Pour s'entendre, c'est un passage obligé que de s'écouter. Or, écouter implique de vraiment considérer autrui pour ce qu'il est, ce qu'il pense, et ne pas être seulement centré sur soi, sur ses propres certitudes. C'est un chemin long et difficile que celui de la conciliation. Il faut même souvent être persévérant. D'ailleurs, il est possible d'imaginer que le mot « réconciliation » a été inventé précisément pour signifier qu'il faut souvent s'y prendre plusieurs fois pour faire émerger la conciliation. La Bible prône cette perspective de la réconciliation. L'écoute et l'accueil mutuel dans le respect de la diversité des opinions y sont présentés comme essentiels pour l'unité. La relation de Dieu vis-à-vis des humains est évoquée comme se plaçant dans cette dynamique constructive. Du reste, si Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ, cela débouche sur le fait qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Puisse ce mandat et cet état d'esprit, qui décrit bien aussi celui de l'olympisme, quand il constitue un tremplin pour faire s'entendre les gens, nous encourager dans toutes nos relations, à mettre en mode mineur nos confrontations pour favoriser la conciliation pour l'épanouissement de tous. »